j'observe que les personnes qui me racontent ces VSCD n'ont aucun trouble psychique préexistant, au contraire même. Mais le choc traumatique de la perte d'un proche ne pourrait-il générer une hallucination chez une personne ne présentant aucun trouble psychique préexistant? Non. Justement, car on observe des manifestations très ponctuelles. S'il s'agissait d'hallucinations, on aurait affaire à l'émergence d'un trouble psychique qui conduirait à observer toute une série de symptômes de ce trouble. Or, cette expérience n'enclenche pas un mode de fonctionnement psychotique. En outre, les hallucinations s'accompagnent de tout un ensemble d'images extrêmement variées, angoissantes et de toute nature. À l'inverse, les VSCD ont des scénarios très simples et systématiquement reliés à la personne disparue. Une bouffée délirante peut être un événement unique également. Oui, effectivement. On décrit souvent la bouffée délirante comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire quelqu'un qui, brutalement, bien que n'ayant jamais eu de manifestation psychiatrique, entre subitement dans un épisode psychotique. Mais là encore, ça va durer plusieurs heures, plusieurs jours. Dans les bouffées délirantes, on observe de surcroît un délabrement psychique. Le fonctionnement de la personne est altéré, et elle le vit quasiment toujours de façon négative. L'expérience est anxiogène, traumatique. Le sujet n'arrive plus à assurer son travail, ses relations. Dans une bouffée délirante, les gens ont besoin d'être hospitalisés parce qu'ils sont complètement envahis par leur délire. Mais avec les VSCD, ce n'est pas du tout le cas. On a vraiment des choses très ponctuelles, très courtes, et surtout, l'impact en est bénéfique. Quelque chose arrive de manière complètement inopinée, dans un contexte de non-altération de la conscience, ou alors simplement lorsque la personne est en train de basculer de la veille au sommeil, c'est-à-dire quand le « moi » est moins en vigilance et plus détendu. Ça peut survenir vraiment n'importe quand, et c'est toujours positif. J'insiste sur ce point. Toujours. Toujours positif. Et, encore une fois, uniquement et systématiquement relié à la personne disparue. Ce caractère ponctuel et circonscrit dans le temps est un élément important. Oui, c'est l'une des raisons qui me permettent d'affirmer que les VSCD ne sont pas de l'ordre de la pathologie psychiatrique ou des hallucinations. Après cette expérience, la personne ne développe pas d'autres manifestations bizarres. Cet événement ponctuel ne s'inscrit pas dans un tableau psychotique, et il a un impact apaisant qui remet en perspective le vécu du deuil de la personne. Ça ne va pas annuler sa souffrance, ça ne va pas l'éradiquer. C'est quelque chose qui s'impose à elle et qui est toujours vécu de façon certes troublante, mais bénéfique. Donc, si on ne peut pas expliquer le déclenchement de ces expériences étranges par le désir qu'aurait la personne de les vivre, ni par un contexte psychotique, ni par un phénomène hallucinatoire. Alors, de quoi s'agit-il? Cela reste un mystère, mais l'essentiel est que les VSCD, d'après mon expérience, sont toujours bénéfiques à la personne. Ensuite, malheureusement, même si ça vient un peu adoucir le vécu du deuil en distillant ce petit espoir que quelque chose de la personne aimée continue à vivre, cela ne permet pas de faire l'économie du travail de deuil. Ces VSCD ajoutent néanmoins, et de façon très tranquillisante, une petite pierre au questionnement autour du mystère de l'après-vie. Que se passe-t-il de l'autre côté? Sans donner d'explication. En tant que médecin, psychothérapeute, et même simplement en tant qu'être humain qui un jour sera confronté à sa propre mort, ces phénomènes posent une question fascinante à explorer. Si je comprends bien, ces expériences de contact après la mort ne doivent pas être prises pour une fragilité émotionnelle. Elles ne sont pas provoquées par la douleur et la détresse des témoins. Il ne s'agit pas d'hallucinations ni de crédulité. Ce n'est pas le désir des vivants qui les déclenche. Elles viennent d'autre part. Une expérience ponctuelle qui émerge hors du champ mental de la personne et qui apporte un apaisement, sans éradiquer la souffrance. J'ai l'impression d'entendre le récit incroyable de ce qu'a vécu Marie après le départ soudain de son père. Chapitre 7. Ramène-moi. Marcel s'est éteint brutalement le 3 novembre 1998, à l'âge de 76 ans, victime d'un infarctus alors qu'il était en train de s'occuper de son cheval dans la ferme sartoise où il était né et avait passé la majeure partie de son existence. Marcel adorait les chevaux. C'était sa vie. Il était étalonnier. Marie, sa fille aînée, 36 ans, se trouve à Paris en ce début novembre. Elle travaille sur le plateau d'une émission de France 5 à laquelle elle collabore régulièrement en tant qu'assistante de production. C'est depuis les studios que vers 15h en ce mardi après-midi, elle appelle chez elle. Son père décroche. Marie lui trouve une voix très fatiguée, épuisée même. Rien d'alarmant cependant, aussi elle blague avec lui, tente de le détendre. Puis une fois leur conversation terminée, elle raccroche. L'après-midi s'écoule. En fin de journée, contrairement à son habitude, Marie n'envisage pas de s'éterniser alors que l'enregistrement de l'émission prend fin. Il n'est que 19h, mais elle se sent inexplicablement éreintée. Tandis qu'elle s'apprête à quitter les studios, sa rédactrice en chef la retient en l'informant que le producteur veut lui parler. Tous les trois gagnent une pièce à l'écart. Ils m'ont annoncé que quelque chose venait d'arriver chez moi. Marie pense immédiatement à sa mère, qui a eu de gros problèmes de santé. Non, ce n'est pas sa mère, lui dit-on. Il s'agit de son père. Il vient d'avoir un grave accident. Ces mots la remplissent de stupeur. Instantanément, elle sait. Personne n'a osé me dire qu'il était mort, mais j'ai compris. Sous le choc, on l'emmène gare Montparnasse, où elle monte dans un train direction Le Mans. Un de ses oncles, le plus jeune frère de son père, l'y attend. C'est avec lui qu'elle gagne la ferme familiale. Depuis son départ de la capitale, Marie est silencieuse, incapable de réaliser ce qui vient de se passer. Elle est en proie à une grande confusion, l'esprit ailleurs, comme anesthésié. Il n'est pas loin de minuit lorsqu'elle arrive enfin et découvre le corps de son père, installé dans la chambre des filles, sur leur lit. Il était tout beau dans son costume, mais froid, froid comme la glace du pôle Nord. Toute la famille est présente, les 6 oncles et tantes de Marie, sa mère, en larmes, sa sœur cadette, effondrée. Marie, elle, pleure, mais refuse de se laisser aller. Elle est comme sur la réserve, pudique. Un calme étrange l'habite. Elle apprend que son père a eu son infarctus fatal vers 18h, au moment où il était en train de soigner son cheval. Elle ne peut alors s'empêcher de penser qu'il n'aurait pas pu rêver mort plus merveilleuse. Un homme passionné par les chevaux, dans sa maison d'enfance qu'il aimait tant. Les trois femmes sont finalement laissées seules. Elles vont dormir ensemble dans le lit des parents. Marie s'allonge au milieu entre sa mère et sa sœur. Sa mère a pris des somnifères. Bientôt, toutes les trois, épuisées par cette journée, dorment profondément. Au cœur de la nuit, Marie est réveillée par une soif terrible. Partagée entre l'envie de se rendormir et le désir de boire qui la tenaille, elle reste un temps indécise, mais la soif devient vite obsédante. N'y tenant plus, elle décide de se lever. Elle parvient à quitter le lit sans réveiller les autres et se dirige vers la cuisine. Une fois dans la pièce, plongée dans le silence, elle attrape machinalement un verre dans le buffet, puis contourne l'imposante table pour atteindre le robinet de l'évier. Alors qu'elle passe à côté de la place que son père occupait à table, quelque chose d'étrange se produit. « Je me suis senti saisi. Ça s'est mis à tourner. » Que s'est-il passé exactement? J'ai perçu des sortes de scintillements bleus et verts autour de ma tête. Les mêmes couleurs qu'une aurore boréale. C'était comme si une énergie s'en dégageait.
Une énergie ?
C'est dur à décrire. Ça faisait comme un miroitement. Vous savez, un peu comme les flamèches de ces baguettes d'anthracite que l'on met sur les gâteaux d'anniversaire et qui crépitent quand on les allume, mais en moins fort et moins lumineux, plus doux. J'avais ça devant mes yeux, et ça semblait envelopper toute ma tête. C'était réellement impressionnant. Ça n'a pas cessé tout le temps que j'ai été dans la cuisine. La chose inouïe aussi, et que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est que je n'ai pas bu. Ma soif avait complètement disparu.
Vous n'avez pas atteint l'évier ?
En fait, non. J'avais l'impression qu'on ne m'en laissait pas le temps.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Cette énergie, ces scintillements bleus et verts autour de ma tête, se sont accompagnés immédiatement de la présence d'une voix. J'ai entendu ces mots. « Ramène-moi ! Ramène-moi !» Textuellement. C'était comme des phrases qui s'inscrivaient dans mon cerveau, émises par une voix qui n'était pas la mienne. J'ai tout de suite fait la distinction entre des paroles que j'aurais pu me murmurer et cette voix qui était extérieure à moi.
« Ramène-moi ! »
Oui, très nettement. Et au même moment, j'ai eu la sensation que des mains invisibles saisissaient mes épaules et me secouaient, alors que j'entendais encore et toujours ce « Ramène-moi ! Ramène-moi ! »
Qu'avez-vous ressenti ?
De la peur, mêlée à un grand désarroi. Je me revois encore revenir sur mes pas à reculons. Je ne pensais plus une seconde à boire. Je ne cessais de me répéter mentalement « Non, papa, je ne peux pas, tu es mort. » Je fuyais cette énergie que je sentais m'envahir. Même si je reconnaissais mon père, la peur prédominait, car comment pouvait-on investir à ce point mon cerveau ? Je ne voulais être habité par personne. Mais en même temps, l'effroi qu'il m'envoyait me troublait terriblement. Je ne pouvais pas le laisser souffrir à ce point. Comment l'aider ?
Très perturbée, Marie regagne la chambre de ses parents, retrouve sa place dans le lit entre sa mère et sa sœur, le drap jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce qui vous a fait associer cette expérience à votre père ?
Ces mots, ramène-moi. Et puis c'était une évidence qu'il s'agissait de mon père. Si je devais visuellement décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je ne trouve rien de plus approchant que ce tableau d'Edouard Munch, le cri. Vous voyez ce tableau ?
Oui.
C'est exactement ce que j'ai perçu de l'effroi qui émanait de mon père à cet instant.
Au matin, Marie ne dit rien de cette expérience, ni à sa mère ni à sa sœur. Néanmoins, elle se sent le devoir de faire quelque chose. Elle ne peut concevoir de laisser son père dans un tel tourment. Il l'a appelé à l'aide. Mais que faire ? Instinctivement, son rôle lui semble finalement clair.
Mon père était attaché à la terre, mais il n'avait pas vraiment d'intérêt pour la spiritualité. J'ai compris qu'il n'acceptait pas ce qui lui arrivait. Il n'acceptait pas la mort. Et c'est pour ça qu'il me demandait si désespérément de le ramener.
Qu'avez-vous fait ?
La chose qui me semblait la plus évidente, j'ai prié durant les 3 jours qui ont précédé ses funérailles. Son corps est resté à la maison tout ce temps. Alors, je me suis concentré sur lui, lui demandant d'accepter sa mort. Oui, durant 3 jours, je n'ai cessé de lui parler en mon fort intérieur, implorant pour qu'il accepte son départ, l'implorant d'aller vers la lumière.
Marie a la sensation soudaine d'être vraiment utile pour son père en ces heures décisives, en lui parlant, en le rassurant de tout son cœur. Intérieurement, dans le silence du langage des âmes, elle n'a de cesse de lui répéter que tout va bien se passer, qu'on l'attend dans l'au-delà et qu'il s'apprête à vivre de belles expériences.
Avec le recul, Je trouve que j'étais un peu gonflé de lui dire tout ça avec autant de certitude. Mais je sentais que ce devoir m'incombait. Il fallait que je le fasse. Et je me sentais forte, très forte. Rien ne venait m'ébranler. J'étais déterminé à l'accompagner sur un chemin où aucun vivant n'était allé.
Durant ces jours de veille, Marie concentre toute son énergie sur son père, bien décidée à lui faire accepter cette mort à laquelle il ne s'était pas préparé. Aujourd'hui, cette rencontre au cœur de la nuit dans une cuisine déserte, vécue initialement comme si effrayante, s'avère être un cadeau pour Marie.
Ça ne devait pas être son intention. Je pense qu'il était alors en pleine confusion, dans le refus, incapable d'accepter sa mort. Mais lui, le terrien, cet homme qui éprouvait un amour démesuré pour sa terre et ses chevaux, m'a fait comprendre cette nuit-là qu'il y a vraiment une âme éternelle dans le corps de chair.
Vous ne pensez pas que la tristesse, la fatigue, le choc de l'événement auraient pu vous faire vivre une forme d'hallucination?
Non, c'était réel. Je suis absolument certaine de cela. J'ai senti cette pression sur mes épaules. J'étais réveillée, j'avais soif. Et j'ai eu la peur de ma vie, même si je comprends aujourd'hui que la mort physique l'a libérée. Mais attention, il faut s'y préparer.
C'est-à-dire?
Je me suis longtemps demandé pourquoi mon père m'avait fait ressentir cette peur si grande qu'il traversait. Pourquoi n'a-t-il pas vu cette belle lumière que l'on décrit si souvent dans les expériences de mort imminente?
Et qu'en pensez-vous?
Il m'a fallu des années avant de comprendre ce qui s'était passé. Mon père a été surpris par la mort. Son infarctus a été soudain et inattendu. Sa première réaction a été de ne pas accepter sa mort physique. En fait, il n'arrivait pas à trouver la bonne orientation. Il ne savait ni quoi faire, ni où aller. Il s'engluait dans la peur.
Il s'engluait dans la peur. Quelques semaines après les funérailles, Marie a rêvé de son père. Ce rêve l'a convaincue que ses prières avaient été utiles. En effet, dans ce songe inhabituel, Marcel la remerciait et lui confiait qu'il avait accepté sa mort. Cela a été profondément apaisant. La sensation pour Marie d'avoir fait ce qu'il fallait. C'est une vraie chance qu'elle soit parvenue à surmonter sa peur initiale. Elle a spontanément perçu la détresse de son père et, plutôt que de nourrir une crainte pourtant légitime et de s'engluer elle aussi dans la peur, elle a été en mesure d'apporter une aide importante à son papa.
Par ses paroles simples, ses prières bienveillantes, et éclairante.
Pourquoi, spontanément, chez une majorité d'entre nous, est-ce la crainte qui prédomine?
Peut-être parce qu'entre les films de fiction qui présentent trop souvent ce sujet de manière effrayante, et notre société qui nous a asséné que tout ça n'existe pas, nous ne sommes pas outillés pour nous confronter à la mort et à ses expériences inhabituelles.
Chapitre 8. Échange d'énergie.
Guy Sétain. Voilà 3 ans et demi que ce pompier volontaire de 41 ans a découvert qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau. Ni les traitements ni la chirurgie n'auront raison de la maladie. En ce début de l'automne 2011, malgré sa volonté de vivre et son immense courage, il vit ses derniers jours. Son épouse, Marie-Claire, secrétaire comptable de 44 ans, et leurs enfants, Erwan et Nolwenn, respectivement 12 et 8 ans, ont perdu leur insouciance depuis longtemps. Des années de combat et de souffrance pour cette famille rennaise jusqu'aux portes de la mort.
Guy est désormais dans le coma, en service de soins palliatifs. Mais il s'accroche à la vie et son épouse le veille en permanence.
Toutes les nuits, même si c'est compliqué. Et ça l'est.
Chaque soir, Marie-Claire s'assied face à lui dans un fauteuil approché contre le lit et regarde le visage de l'homme qu'elle aime. Elle refuse de le laisser partir et ne ferme quasiment pas l'œil, guettant sa respiration, ses silences.
Être là. Elle veut être présente s'il devait se passer la moindre chose.
D'ordinaire, le sommeil l'emporte un peu avant l'aube, pour une poignée d'heures.
Il fait encore nuit noire. Épuisée, Marie-Claire commence à sombrer. Elle pique du nez,
sa tête tombe vers l'avant, ce qui la réveille brusquement. Elle se ressaisit, redresse les yeux et, stupéfaite, découvre Guy en train de la dévisager. L'émotion la submerge.
Guy est sorti du coma. Il est là, les yeux ouverts. Je vois son regard plein d'amour. Je le sens calme et serein.
Guy est incapable de parler. Les seuls échanges du couple passent par ce regard si empli d'amour à cet instant. Elle n'en revient pas.
Aussi, alors qu'ils n'ont jamais abordé le sujet de la mort, ce soir, dans l'intimité de leur échange au cœur de la nuit, Marie-Claire a pour la première fois la force de lui poser la question « Est-ce qu'il souhaite continuer le combat ?»
En guise de réponse, Guy fixe les yeux de sa femme et semble à son tour l'interroger. « Tu crois que c'est ce qu'il faut faire ?»
À ce moment, les mots de Marie-Claire sont hésitants, presque murmurés. Je lui demande s'il souffre.
Guy cligne des yeux pour dire « oui ».
La conversation se poursuit quelques minutes, entrecoupée de longs silences durant lesquels les deux époux ne se quittent pas des yeux.
Marie-Claire finit par proposer à son mari de se reposer.
« Je me suis dit que nous reparlerons le lendemain, dans quelques heures, quand les infirmières seraient passées. » Je tombais tellement de fatigue. Marie-Claire est au chevet de son mari depuis des semaines.
Il est 5 heures du matin quand elle s'autorise un maigre sommeil.
J'ai été soulagée de le voir se réveiller. Je pensais qu'il était revenu avec nous. J'étais tellement épuisée.
Il est resté conscient ensuite?
Non. Je n'ai plus eu aucun échange avec lui. Guy est retombé dans un coma encore plus profond.
Il aura juste repris conscience quelques minutes pour cet échange qui va s'avérer si déterminant pour Marie-Claire.
Le personnel des soins palliatifs avait prévenu la famille depuis plusieurs jours que Guy vivait ses derniers instants. Même si jusque-là elle s'y refusait, Marie-Claire consent à suggérer à Erwan et Nolwenn de dire au revoir à leur papa.
Nolwenn, la plus jeune, bouleverse sa mère par son attitude.
En larmes, caressant la main de son père, elle exprime tout ce que son cœur ne peut garder, combien elle l'aime, combien elle est fière de lui. Puis, c'est au tour d'Erwan, très secoué. Ce soir-là, la famille est unie par un amour éternel. Ils mesurent combien ils tiennent les uns aux autres.
Le moment est si éprouvant pour tout le monde, et plus encore pour les enfants, que Marie-Claire refuse de passer cette nouvelle nuit loin d'eux.
Ce soir-là, je ne suis pas restée près de Guy. Je suis rentrée dormir avec les enfants. On a passé la nuit tous les trois ensemble.
En quittant la chambre, Marie-Claire demande à son mari de ne pas partir.
« Les enfants ont vraiment besoin de la présence de leur mère ce soir, lui explique-t-elle, mais il faut absolument qu'ils l'attendent. »
Elle promet de revenir le plus vite possible le lendemain matin.
Malgré tout, elle part angoissée de l'hôpital, déchirée à l'idée de ne pas avoir pris la bonne décision. Je n'arrivais pas à me résoudre à le laisser partir.
La maman et la sœur de Guy demeurent à ses côtés cette nuit-là.
Ma belle-sœur m'a régulièrement envoyé des messages me disant qu'il était calme. J'ai vraiment eu peur qu'il s'en aille sans que je sois présente, alors que je l'accompagnais depuis toujours. C'était déchirant de devoir choisir entre mes enfants et mon mari.
Mais la nuit se passe bien. L'état de Guy demeure stationnaire.
Au matin, Marie-Claire retrouve son mari comme promis.
Sa belle-sœur rentre se reposer. Sa belle-mère est partie prendre en charge les enfants.
Marie-Claire se retrouve seule au chevet de son homme, toujours plongée dans une inconscience profonde. Sa respiration est faible. Elle passe la journée à lui tenir la main.
Alors que le soir tombe, les infirmières informent Marie-Claire que Guy va sans doute mourir dans les heures à venir. Elles lui suggèrent de lui dire qu'il peut partir en paix. Alors que ça lui semblait impensable, tant Guy s'est toujours accroché à la vie, ce soir, Marie-Claire réalise qu'aucune autre issue n'est réaliste. Peut-être est-ce même ce que Guy attend. Un signal de sa part. Puis, le service plonge dans la nuit. Une nuit d'automne.
Marie-Claire est installée près de Guy, non plus face à lui, mais à côté du lit, afin d'être tout contre son mari.
Sa main gauche dans la sienne, elle trouve enfin la force de le libérer.
« Je suis parvenu à le lui dire. »
Vous souvenez-vous de vos mots ?